Infomag, Jean-François Baudin.
2600 agents des forces de l'ordre sur le terrain. Un an après le déclenchement des émeutes, la nuit dernière n'a été marquée que par quelques exactions, notamment des tentatives d'entrave à la circulation. Deuxième jour dans le procès pour emploi fictif de 5 cadres de Calédonie Ensemble. Compte rendu d'audience avec Nicolas Legrand dans ce journal. Sans santé mentale, pas de paix durable. Un an après le déclenchement des émeutes, les professionnels libéraux de santé lancent un appel pour un accompagnement psychologique des Calédoniens qui en ont besoin. L'actualité à l'étranger, le Hamas libère un nouvel otage, libération qui intervient à la veille d'une tournée du président américain au Moyen-Orient. Pas de détente dans les relations entre Alger et Paris, l'Algérie annonce l'expulsion de 15 fonctionnaires français supplémentaires. Et puis du football dans la page sport avec la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne de foot. Et puis les projets du président de la Fédération française qui veut créer une société des clubs. Explication dans la page sport. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes donc aujourd'hui le 13 mai et cela fait un an que les violences insurrectionnelles ont débuté, plongeant le territoire dans une extrême violence. Pour pallier les éventuels débordements, un dispositif de sécurité conséquent a été mis en place. 2600 policiers et gendarmes ont déployé sur le terrain 24 heures sur 24. Cette nuit, le haut-commissaire Jacques Billan était aux côtés de la police nationale. Il a accompagné les patrouilles qui ont été effectuées dans les quartiers de Caméré, de Magenta et de Rivière-Salée. Un dispositif qui a peut-être permis de contenir les quelques incidents signalés, Léana Colombo.
Oui, des incidents qui peuvent presque tous se résumer à des jets de projectiles et des tentatives d'entrave par branchage. Une dizaine auraient été recensées. Dans ce contexte, il y a tout de même eu 6 interpellations, dont 5 à Nouméa et 2 pour entrave. La 6e concerne un individu ayant participé à des caillassages devant la tribu de Saint-Louis entre 23h et 1h du matin. Le verrou a été temporairement fermé le temps de l'intervention des gendarmes, impactant une dizaines d'automobilistes. Ce matin, plusieurs témoignages signalaient encore des débris sur les routes, sur la commune du Mont-d'Or, notamment au Vallon d'Or et Boulary. Mais la nuit aura donc été plutôt calme, explique le général Mathéos, commandant la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
La nuit s'est bien passée, globalement. En tout cas, jamais les gendarmes n'ont perdu le contrôle de la situation. Nous avons été réactifs, immédiatement réactifs, dès qu'il y avait un début de trouble, dès qu'il y avait un désordre, dès qu'il y avait un début de petite barricade, les gendarmes sont intervenus tout de suite, ce qui nous a permis de garder en permanence le contrôle du terrain, le contrôle de la situation sur la route qui traverse la tribu de Saint-Louis. Nous avons été confrontés pendant un peu plus d'une heure à des difficultés qui ont pu être rapidement circonscrites et traitées par l'engagement massif des gendarmes qui ont permis d'interpeller un jeune qui procédait à des caillassages sur les gendarmes et à des poses d'obstacles sur la chaussée.
La gendarmerie conseille d'appeler le 17 pour donner toute information sur l'état des routes ou tout autre incident. Et puis hier soir et une partie de la nuit dernière, des perturbations ont été constatées sur les services de téléphonie et de fibre optique à la Tamois, Tontouta, Tomo, Bouloupari, La Foy, hors de centre-village, les îles et une partie du nord. Le retour à la normale s'est effectué aux alentours d'une heure du matin, selon l'OPT. C'est un incendie volontaire sur la chambre de fibre optique située au niveau de la tribu de Saint-Laurent qui a causé la panne. Une enquête est en cours.
Et rappelons également que jusqu'au 15 mai, la vente d'alcool à emporter est interdite sur tout le territoire. L'alcool pourra être consommé sur place dans les débits de boissons. Les manifestations revendicatives et défilés à Nouméa, Païta, Mont-d'Or et Dumbéa sont également interdits, ainsi que l'achat de munitions d'armes à feu qui est limité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que le dispositif de maintien de l'ordre mis en place par le Haut-Commissariat près d'un an après le début des violences insurrectionnelles est adapté à la situation. Ils sont 17% à ne pas partager cette opinion. Et puis voici notre question du jour. Un an après le début des violences insurrectionnelles, êtes-vous impacté par leurs conséquences dans votre quotidien ? Si vous êtes impacté, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une lettre ouverte de Sonia Baquès un an après l'insurrection du 13 mai. Il lui semblait essentiel de prendre la parole comme chef de file des Républicains calédoniens pour revenir sur cette année éprouvante et redire aux Calédoniens son admiration pour leur résilience et pour leur renouveler sa confiance en l'avenir. Rien n'est plus pareil, écrit-elle. Depuis ce moment où il y a tout juste un an, la violence s'est abattue sur nous tous avec une brutalité aussi inédite que douloureuse. La paix que nous avions mis des décennies à construire a été réduite en cendres par des indépendantistes radicaux qui ont préféré la haine, le racisme et le sang au chemin de concorde que nous avions patiemment bâti depuis la poignée de main salvatrice entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. après avoir rappelé ces événements et tout ce qui a été réduit à néant par les mensonges de l'UC et de la CCAT. Sonia Baquet indique que depuis un an, les non-indépendantistes s'attachent à reconstruire autrement en plantant les germes du nouveau projet. Elle rappelle que la venue de Manuel Valls s'est soldée par une absence d'accord et que l'union des non-indépendantistes a permis de déjouer les plans machiavéliques de ceux qui ont cherché à violer l'expression démocratique des Calédoniens en imposant la pleine souveraineté. Nous devons désormais faire face à cette absence d'accord qui en rien ne s'apparente au chaos, écrit Sonia Baquès, qui déclare à ceux qui y doutent encore, ne perdez pas espoir, nous sommes sur le chemin de la reconstruction et elle appelle à reconstruire une nouvelle Calédonie fière, dynamique, libre, plurielle et fidèle aux valeurs de la République. L'actualité judiciaire avec le deuxième jour du procès de cinq cadres de Calédonie Ensemble, dont Philippe Gomès et Philippe Michel. Ils sont jugés pour détournement de fonds dans le cadre d'emplois fictifs présumés de collaborateurs politiques de la communauté wallisienne et futunienne à la province sud et au Congrès. Vous avez suivi l'audience ce matin, Nicolas Legrand, audience technique mais aussi parfois houleuse.
Oui, comment et pourquoi étaient-ils recrutés? Ce sont là les questions qui animent les débats aujourd'hui. À la barre, Sutitasio Lagadec, membre fondateur du parti poursuivi pour complicité. L'ancien élu, aujourd'hui employé dans un collège, a évoqué la stratégie de Calédonie Ensemble, le parti de Philippe Gomès qui recrutait des chefs de village ou de district qui devaient participer à une réunion hebdomadaire de 2 heures afin d'informer ensuite la communauté lors de réunions dites Tupperware. Il y en aurait eu 46 entre 2016 et 2018. Quelques questions ont été posées également sur la participation réelle de ces collaborateurs à ces réunions. Et il en ressort que certains n'étaient pas du tout assidus. Dans les faits, Calédonie Ensemble a mis en place un véritable maillage très complet de la communauté wallisienne et futunienne, puisque les postes de collaborateurs étaient parfois fractionnés en 8 temps partiels afin de toucher le plus de familles possible. C'est le seul parti à avoir procédé ainsi à l'époque et qui avait environ 5 fois plus de collaborateurs que les autres formations. Une méthode et un émiettement des postes qui éveillent les soupçons, selon le procureur de la République Yves Dupas. L'avocat de la province sud, qui est partie civile dans ce dossier, Maître Reuter, indique que la moyenne d'âge de ses collaborateurs, dits de terrain, était de 70 ans et que beaucoup ne parlaient pas français. Il s'interroge alors sur le mode de recrutement, indiquant que des jeunes auraient peut-être été plus efficaces dans les missions confiées. Une logique occidentale, répliquera Sutitasio Lagadec, appelé à la barre ce matin. Pour elle, dans l'organisation wallisienne et futunienne, les coutumiers sont les seuls qui ont la légitimité pour parler aux membres de la communauté et ainsi d'éduquer la population sur les réformes en cours. Puis elle s'agace, cette affaire jette l'opprobre sur la communauté wallisienne et futunienne. Ce n'est pas un électorat qu'on achète, on n'obligeait personne à voter pour Calédonie Ensemble. On ne peut d'ailleurs forcer personne dans l'isoloir, ajoute-t-elle avec force à la barre. Même si dans ce dossier, Calédonie Ensemble n'est donc pas poursuivi pour achat de voix, le procureur de la République, Yves Dupas, lâchera aussitôt que le vote est au cœur de ce dossier et posera cette question. N'y a-t-il pas derrière ce recrutement systématique de chefs coutumiers wallisiens et futuniens un intérêt d'influence électorale, puisque plusieurs collaborateurs ont en effet déclaré avoir été recrutés pour faire élire Calédonie Ensemble, ce qui atteste donc la présence d'un vaste système d'emplois fictifs au profit du parti Calédonie Ensemble. L'avocat de Philippe Gomès, Maître Leborne, se lève, ouvre les bras et s'insurge. L'intention politique n'est pas un phénomène de culpabilité. Puis Maître Pierre Cornu-Gentil, complète. Il y a une visée électorale évidente, mais c'est le rôle principal des partis politiques. Les deux avocats estimant que la frontière entre information sur le travail d'une institution et la propagande politique est bien difficile à définir dans le cadre d'une réunion publique. C'est en tout cas le fond du dossier, le pourquoi. Pourquoi ces collaborateurs ont-ils été recrutés pour servir Calédonie Ensemble ou alors l'intérêt public? Est-ce que leur travail s'inscrivait dans le cadre de missions de collaborateurs de terrain et ont-ils réellement travaillé? Et puis l'autre question centrale, c'est comment ont-ils été recrutés? Pour Sutitasio Lagadec, qui animait les réunions de ses collaborateurs dits WS pour Wallis et Futuna, eh bien, elle déclare que la communauté proposait les noms des collaborateurs et qu'elle n'avait quasiment rien à dire. Le tribunal cherche donc à savoir qui était responsable des recrutements pour déterminer, le cas échéant, les niveaux de responsabilité. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Les faits divers en bref et la nuit dernière, 5 des détenus se sont évadés de la prison de Koné. Ils auraient escaladé le mur d'enceinte et l'un d'entre eux se serait blessé. D'importants moyens ont été déployés pour retrouver les fugitifs. Dans la matinée, 2 d'entre eux ont été retrouvés à Koné. La gendarmerie invite toute personne détenant des informations à composer le 17. Et puis 1 an de prison, dont 2 mois ferme pour l'incendiaire d'une partie des locaux des boucles de Tina. Âgé de 19 ans, il était jugé sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits remontant à la nuit du 3 au 4 mai. Il aurait mis le feu en guise de représailles après une opération de police au niveau du squat de Tina pendant une fête. Il est 11h41, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région dans un instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
3 francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Les Trois Brasseurs au 24, 15, 16. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des mères sur la page Facebook Les Trois Brasseurs Nouméa.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'était hier la journée internationale des infirmières et à cette occasion, la province sud a souhaité leur rendre hommage et marquer son engagement à leur côté en signant une charte pour le changement. Une signature très appréciée par les infirmiers et infirmières du territoire, comme nous l'a dit Laure Favreau, ancienne présidente de l'ADIC, l'Alliance des infirmiers calédoniens. Elle était notre invitée ce matin à 7h30.
Il était important pour la profession d'avoir une reconnaissance institutionnelle et je remercie pour cela la province sud et particulièrement Mme Baquès d'avoir initié cette démarche. Nous espérons que les institutions vont vite prendre le chemin.
Cette charte, concrètement, elle engage... À quoi ?
Il y a 10 mesures très concrètes qui vont toucher la sécurité des soignants, qui est au cœur de nos préoccupations actuellement, mais également la valorisation des professions, de notre profession d'infirmière. Cette valorisation, elle passe par la formation, par la reconnaissance des compétences, par la mise en valeur des compétences acquises et de futures compétences. Donc, formation, sécurité et également une voix au niveau des pouvoirs publics pour l'élaboration du système de santé et des projets dans la santé publique.
Aujourd'hui et après la crise Covid et 1 an après les émeutes insurrectionnelles, le système de santé calédonien est en très grande souffrance et les choses ne semblent pas vouloir s'arranger à court et moyen terme.
Vous avez vu avec les dernières études que près de la moitié des personnels de santé souhaitent quitter le territoire. Des politiques d'attractivité sont mises en place. La priorité, c'est aussi de garder les soignants qui étaient présents, justement, pendant ces périodes difficiles et qui ont, au détriment de leur vie personnelle, de moments très difficiles, de peur, de doute, de difficultés d'exercice, ont continué à maintenir le lien avec les malades. Donner de l'argent aux gens, c'est formidable, et ça, c'est un point des demandes des soignants, d'être valorisés à leur juste valeur, reconnus à leur juste valeur. Mais avant tout, si on ne vit pas en sécurité, si on n'est pas serein pour aller travailler, on ne peut pas exercer dans des conditions convenables. Et un soignant qui est malheureux et qui va avec la boule au ventre au travail, ne peut pas être un bon soignant.
Une dégradation des conditions de soins qui se ressent sur l'ensemble du territoire et ce matin, la DIC, par la voix de Laure Favreau, a lancé une nouvelle fois un appel au pouvoir public.
On a des retours de toutes les structures d'accueil. Déjà, il y a des fermetures de lits, il y a des difficultés d'accès aux soins dans certaines zones géographiques. Il y a des retards de prise en charge par défaut de soignants. Il manque des spécialités médicales, mais il n'y a pas suffisamment non plus de paramédicaux pour intervenir. Concrètement, effectivement, il y a un gros retard d'accès aux soins. On commence à voir émerger des pathologies et des aggravations de pathologies qu'on n'avait plus vues depuis plus de 10 ans. Donc la santé des Calédoniens est nettement en recul et on n'en est qu'au début. J'alerte réellement les pouvoirs publics, mais je pense qu'ils en ont conscience, mais qu'il est vraiment urgent de mettre des actions extrêmement fortes au profit de la santé afin d'endiguer cette dérive.
Laure Favreau, ancienne présidente de l'ADIC, l'Alliance des infirmiers calédoniens, invitée ce matin sur RRB. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et puis sans santé mentale, pas de paix durable. Un an jour pour jour après le début des émeutes, la Fédération des professionnels libéraux de santé lance un message d'alerte. Elle demande à faire de la santé mentale un axe central du projet de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Charlotte Coulson.
L'étude de Queen Novi menée en 2024 a révélé que 23% des soignants présentent aujourd'hui des signes de stress post-traumatique modéré à sévère. Si le sondage concerne les professionnels de santé, la Fédération considère qu'il est aussi révélateur de l'état d'esprit de l'ensemble de la population. Amy Piron est hypnothérapeute et membre du bureau de la FPLS. Comme elle le décrit, les professionnels du secteur constatent un traumatisme chez certains de leurs patients.
Avec les événements de l'année dernière, on voit bien qu'au niveau santé mentale, les personnes sont dans le besoin, même si ça ne se voit pas forcément. Nous, dans les cabinets, et même en parlant avec d'autres professionnels de la santé mentale, on voit bien qu'il y a un sursaut de dépression chronique, de douleur chronique aussi. On peut parler de traumatisme dans certains cas, notamment des personnes qui ont vu des choses très choquantes. Après, on va aussi parler de syndrome post-traumatique, où là, nous, on a vu les syndromes post-traumatiques arriver à partir de décembre. C'est-à-dire quand, finalement, l'environnement commence à être un peu plus calme, ben, le cerveau se dit « Ah, c'est bon, je suis un peu plus en sécurité », et finalement, tout se relâche. Il y a des signaux qui sont assez clairs, généralement. Les cauchemars, les insomnies, sursauter au moindre bruit. Et par exemple, ce matin, je parlais avec des gens qui m'ont dit « Ah ben moi, hier soir, j'ai pas très bien dormi ». Parce que finalement, il y a eu un ancrage inconscient de cette fameuse date.
Et comme écrit la FPLS dans son communiqué publié ce matin, ce que nous avons traversé collectivement en mai 2024 constitue un traumatisme majeur qui appelle une réponse à la hauteur. Les membres de la Fédération demandent, entre autres, la mise en place d'une cellule d'écoute thérapeutique de grande ampleur.
On sait très bien que si la population n'est pas dans une bonne santé mentale, derrière, il y a des impacts surtout sur l'éducation des enfants. Il va y avoir de la violence qui va se faire beaucoup plus facilement parce que c'est une réponse qui est facile. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une cellule vraiment thérapeutique ou psychologique qui soit mise en place, structurée sur tout le territoire. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Nous, on a fait notre action de notre côté. La Croix-Rouge fait aussi des actions. Il y a eu la Chambre des métiers, la CCI. C'est dommage, on a tous été un petit peu éparpillés. Et on aimerait qu'il y ait justement quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus stable aussi, pour permettre de communiquer sur la santé mentale et de proposer une aide. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, les gens, oui, peut-être qu'ils veulent de l'aide, mais ils n'ont pas forcément les finances pour pouvoir se la payer.
Et pour la FPLS, la prise en charge psychologique concerne aussi les auteurs de violences survenues l'année dernière. Elle demande la mise en place d'un accompagnement psychologique pour les mineurs et les adultes incarcérés.
Toujours en Calédonie, en bref, l'OPT lance le 1052, un numéro unique et gratuit pour bloquer sa ligne mobile en cas de perte ou vol du téléphone mobile. Ce numéro, disponible tous les jours de 6h à 21h, permet de bloquer immédiatement une ligne mobile en cas de perte ou de vol de la carte SIM. Jusqu'à présent, les demandes de suspension se faisait par téléphone ou par mail, ce qui pouvait entraîner des délais de traitement. Le 1052 offre désormais un point d'entrée unique pour répondre efficacement aux situations d'urgence. Et puis dès demain, les travaux de construction du nouveau pont de la Névou sur la RT3 près de la tribu de Gondé vont débuter sur la commune de Wailou. Le chantier devrait durer 7 mois. Pendant la durée des travaux, la circulation sera alternée sur la portion de route concernée. Le gouvernement rappelle l'importance de respecter les prescriptions en matière de vitesse ainsi que le balisage mis en place pour assurer la sécurité des travailleurs. L'actualité dans la région avec le Premier ministre australien qui réinvestit la politique internationale. Après la campagne pour les élections générales en Australie, puis sa réélection, Anthony Albanese a annoncé sa première tournée hors d'Australie, direction Jakarta, puis Rome, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a annoncé en conférence de presse qu'il se rendra demain à Jakarta, où il aura des entretiens avec le président indonésien Prabowo Subianto. Le Premier ministre australien a confirmé qu'il assistera ensuite à la messe d'inauguration du nouveau pape Léon XIV. Cette cérémonie se déroulera dimanche prochain et aura pour cadre la place Saint-Pierre du Vatican, où sont, pour l'occasion, attendus de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Anthony Albanese a indiqué qu'il en profitera pour rencontrer notamment le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney. En marge des célébrations, il aura aussi un entretien officiel avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
10h50, la deuxième pause de ce journal. Avant de voir dans un instant l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
On va commencer par l'actualité à l'étranger et Donald Trump s'apprête à effectuer une tournée au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte que le Hamas a libéré cette nuit pour nous un nouvel otage, Edan Alexander, un jeune israélo-américain qui s'était engagé dans l'armée israélienne et qui avait été enlevé le 7 octobre 2023. Pour les observateurs, le Hamas ferait ce geste de bonne volonté à un moment précis, la visite de Donald Trump donc, mais aussi la menace d'Israël qui brandit l'ultimatum d'une vaste opération militaire dans la bande de Gaza. Frédéric Simon pour Europe 1.
Il était un peu plus de 18h, heure locale, 17h, heure de Paris, lorsque Edan Alexander a été remis par le Hamas au représentant de la Croix-Rouge internationale. Un peu moins de 2 heures plus tard, il retrouvait ses proches en territoire israélien. Après 584 jours de détention, la fin du calvaire pour ce jeune américano-israélien de 21 ans qui avait quitté les États-Unis pour s'engager dans les rangs de l'armée israélienne. Contrairement aux précédentes libérations d'otages capturées le 7 octobre 2023, celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Edan Alexander doit sa liberté au pourparlers mené ces derniers temps entre les émissaires de Donald Trump et les représentants de l'organisation islamiste palestinienne. Le Hamas évoque un geste de bonne volonté à l'endroit du président américain à la veille de sa tournée moyen-orientale. Israël, tenu à l'écart de ses démarches, a annoncé le départ d'une équipe de négociateurs pour le Qatar. Un nouveau round de négociations sur la libération des 58 otages encore détenus dans la bande de Gaza et qui pourrait suspendre les projets d'extension des opérations militaires contre le Hamas.
Et Donald Trump pourrait profiter de sa tournée au Moyen-Orient pour se rendre jeudi en Turquie. C'est là qu'Ukrainiens et Russes doivent négocier un cessez-le-feu. Le président ukrainien Zelensky a annoncé son intention de se rendre personnellement à ces négociations et il a invité le président russe à faire de même sans avoir reçu de réponse précise. Une fois encore, le nouveau pape lance un appel à la paix. Léon XIV l'avait déjà fait le jour de son élection, puis lors de sa première messe dominicale place Saint-Pierre à Rome. Il a donc de nouveau lancé un appel à la paix alors qu'il recevait la presse pour la première fois depuis son élection. Et il en a profité pour réclamer la libération des journalistes emprisonnés.
Permettez-moi alors aujourd'hui d'insister sur la solidarité des églises vis-à-vis des journalistes qui se trouvent dans les prisons parce qu'ils ont essayé de raconter la vérité.
Rappelons que la messe d'inauguration du pape Léon XIV sera célébrée dimanche à Rome. Ce soir, l'archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, célébrera une messe d'action de grâce pour l'élection du nouveau pape. Elle aura lieu à 18h à la cathédrale Saint-Joseph. Les relations entre la France et l'Algérie ne semblent pas prêtes à se détendre. Moins d'un mois après l'expulsion d'Alger de 12 agents français du ministère de l'Intérieur, le pouvoir algérien annonce l'expulsion de 15 fonctionnaires français supplémentaires. On est donc loin de la désescalade espérée. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Comme je l'ai fait le mois dernier, nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. Et je précise, c'est une décision que je déplore, parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France.
Voilà, il s'agit de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, en réponse à cette nouvelle expulsion de Français d'Algérie qui pourrait entraîner donc un certain nombre de représailles. En métropole, une centaine de personnes a manifesté cette nuit devant l'Assemblée nationale. Elles ont dit leur opposition au projet de loi sur l'euthanasie alors que les débats sur le sujet reprennent. Les députés doivent aussi poursuivre leur travail sur l'évolution des textes concernant les soins palliatifs. À Évian-les-Bains, un pompier est toujours entre la vie et la mort. Samedi, il a été percuté par un jeune qui faisait un rodéo nocturne avec sa voiture. Le conducteur de 19 ans a été interpellé, mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. Un fait divers qui suscite la colère parmi les habitants d'Évian. Le reportage de Jean-Luc Goujon.
Toujours très en colère, un peu plus de 48 heures après les faits survenus juste devant la caserne où je me trouve. Des habitants comme Sophie qui accueillent donc avec soulagement cette mise en examen du jeune homme de 19 ans.
Tant mieux, j'espère qu'il va être puni, puis lourdement, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est quand même nos pompiers, ils sont là pour nous sauver, hein, pour nous protéger. Donc oui, ça fait de la peine que les jeunes ne respectent pas ça. Parce que l'éducation des jeunes à l'heure actuelle, eh ben, y a plus rien quoi. Ils sont complètement laissés à l'abandon par leurs parents. Je sais que tous les week-ends, ils viennent sur les parkings, ils fument, ils boivent, c'est pas bien.
Un jeune homme qui a reconnu les faits, mais qui a nié avoir percuté le pompier délibérément. En garde à vue, il a expliqué qu'il avait paniqué. Un jeune majeur qui a été placé en détention provisoire, lui qui était déjà très défavorablement connu de la justice, avec 3 condamnations à son casier, notamment pour trafic de stupéfiants, et qui avait déjà passé 6 mois en prison. Sa victime, un pompier de 38 ans, lutte toujours contre la mort à l'hôpital d'Annecy. Pronostic vital toujours engagé.
11h56, la dernière pause de ce journal avant de voir la page sport, et puis on se retrouve ensuite pour le magazine Citoyen qui sera consacré au dispositif Pépite NC.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pure Essentiel, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Pure Essentiel sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord du football, Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, a été nommé la nuit dernière sélectionneur du Brésil, Lionel Sabot.
La plus grande sélection de l'histoire du football sera dirigée par l'entraîneur le plus victorieux du monde. C'est par ces mots, dans un court communiqué, que la Fédération brésilienne de football a annoncé la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção un peu plus d'un an avant la Coupe du Monde. À 65 ans, le détenteur du record de trophées en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur va ainsi prendre les rênes de la seule équipe nationale quintuple championne du monde. Cette annonce met fin à un mois et demi de suspense depuis le limogeage de Dorival Junior fin mars, après une raclée monumentale 4-1 face à l'Argentine. Ancelotti fera ses grands débuts sur le banc de la Seleção pour les matchs contre l'Équateur le 5 juin, puis le Paraguay le 10 en qualification du Mondial 2026. L'Italien restera donc à la tête du Real Madrid, où il est arrivé en 2021 jusqu'à la fin du championnat espagnol. Il annoncera ensuite la liste des joueurs brésiliens convoqués pour les rencontres face à l'Équateur et face au Paraguay le 26 mai, au lendemain du dernier match de Liga des Madrilènes. Ce sera face à la Real Sociedad. C'est la première fois que l'équipe nationale brésilienne est entraînée par un étranger depuis 60 ans et le passage éphémère de l'Argentin Filippo Núñez en 1965. Rappelons que le Brésil court après son 6e titre de champion du monde depuis 2002 et n'a pas remporté de trophée majeur depuis la Copa América en 2019 qui était disputée au Brésil. Il reste sur 2 éliminations en quart de finale de la Coupe du Monde après le fatidique 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale de l'édition disputée au Brésil en 2014. Une débâcle historique qui laisse encore des cicatrices aujourd'hui.
Le football toujours, avec cette petite révolution qui se prépare en France. Le président de la fédération, Philippe Diallo, veut en effet réformer la gouvernance du foot français et il propose de remplacer la Ligue de football professionnel par une société des clubs. Explication de Cyril de la Morinerie.
Il s'agit d'une société commerciale dont les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 seront actionnaires, tout comme la fédération. La FFF aura également un droit de veto concernant les sujets les plus structurants, comme le format des compétitions. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de président élu. Vincent Labrune devra quitter son poste. Les dirigeants seront désormais nommés par le conseil d'administration. Cette société s'occupera à la fois de la partie commerciale, notamment la vente des droits télé, mais aussi de l'organisation des championnats. Cette révolution doit permettre au foot français de se relever, espère Philippe Diallo, président de la fédération.
Ce projet collectif, il vise à permettre de poser un cadre qui soit celui du rebond de nos clubs professionnels, qu'on veut plus efficient, plus transparent, ans et dans laquelle la fédération aura un rôle nouveau.
Et pour aboutir à cette nouvelle organisation qui s'inspire du modèle anglais, il faut changer la loi. La société commerciale pourrait donc voir le jour au mieux dans un an. À court terme, la fédération souhaite la mise en place dans les clubs français d'un plafonnement de la masse salariale et d'un dispositif de limitation des effectifs pour relancer un football français en grande souffrance.
Et on va terminer avec quelques mots de tennis, Lionel, et la suite du tournoi Masters 1000 de Rome.
Oui, chez les messieurs, deux Français sont encore en compétition. Ce soir, à partir de 23h, Corentin Moutet rencontrera pour une place en quart de finale le Britannique Jack Draper, tête de série numéro 5. Un peu plus tard dans la nuit, Arthur Fils, tête de série numéro 13, aura fort à faire face à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2. Et hier soir, pour nous, l'Australien Dominor, le Danois Rud et l'Italien Sinner se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de ce tournoi.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.